Bonjour à tous. Le premier tour des élections municipales, c'est ce dimanche, dernière ligne droite. Et pour vous aider à faire votre choix, nous vous proposons ce midi un débat avec les listes présentes au Havre. Elles sont 7. Débat que nous organisons traditionnellement à l'approche de chaque élection. Mais il a été difficile cette fois-ci de convaincre les candidats. Édouard Philippe, maire sortant, qui se représente, refuse de débattre avant le premier tour. Nous le regrettons, mais nous avons tout de même décidé de maintenir notre rendez-vous, laisser la parole à ceux qu'ils souhaitent. Seules deux têtes de liste ont décidé de maintenir leur présence, Charlotte Boulogne pour LFI, bonjour. Et merci à vous. Marie Lecieux pour la liste La Ville est à vous, bonjour. Et merci. Pour les autres, eh bien, Jean-Paul Lecoq du Front Populaire Havrais est représenté par le socialiste Laurent Logiou, bonjour.
Socialiste.
Pardon ? Socialiste. Ah, excusez-moi. Donc, en tout cas, vous faites partie de cette liste de Jean-Paul Lecoq. Franck Keller qui présente une liste d'alliances entre l'UDR et l'ERN. Le Havre d'abord, les Havrais toujours, est représenté par son colistier Olivier Queval, responsable de l'UDR au Havre. Bonjour.
Bonjour.
Sophie Zarifian à la tête d'une liste citoyenne. Le Havre en débat est représenté par Lassen Belgacem. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et Magali Cochois de Lutte Ouvrière est représentée par son colistier Jean-Paul Massé. Bonjour.
Bonjour.
Et donc la liste d'Édouard Philippe Le Havre représentée par vous Jean-Baptiste Gastine. Bonjour.
Bonjour.
Notre débat donc va se composer de trois parties sur la démocratie participative, la place de la ville haute et de la ville basse et une dernière grosse partie qui sera consacrée à la santé. Pour entrer directement dans le débat et dans le vif du sujet, deux listes citoyennes cette année se présentent à cette élection municipale. La place du citoyen qui interroge de plus en plus avec des propositions sur la plupart des listes. On va donc commencer par vous, Jean-Baptiste Gastine. Comment mieux intégrer l'avis des habitants aux prises de décision ?
Oui, bonjour à tous. D'abord, vous avez dit que Édouard Philippe refusait le débat. C'est pas vrai du tout. Édouard Philippe, comme moi, on est les héritiers d'Antoine Ruffnac. Et ce qui nous caractérise à la suite d'Antoine Ruffnac, c'est d'accorder beaucoup de respect à tous nos adversaires politiques. On l'a toujours fait dans toutes les élections et dans toute la durée des mandats pendant les conseils municipaux. On est 61 sur la liste Le Havre. Hier, c'était Fabienne Delafosse qui a parlé de culture avec beaucoup de gens autour d'elle. Aujourd'hui, c'est moi qui représente la liste, ce qui est exactement la même chose il y a 6 ans, dans les mêmes conditions et sur votre antenne déjà.
Et on regrettait déjà qu'il n'ait jamais répondu à nos invitations.
Édouard Philippe participera au débat entre les deux tours, cela va de soi.
Très bien.
La démocratie participative. D'abord, je voudrais rappeler que dans la vie démocratique, il y a la vie de tous les jours et il y a des moments forts. Et l'élection reste un moment fort de la vie démocratique. Et puisqu'on est à 5 jours du premier tour, moi j'invite tous les Havrais qui s'intéressent de plus en plus nombreux à l'élection, et c'est une bonne chose, à regarder, à comparer les projets des uns et des autres. Nous avons voulu proposer un programme sérieux, finançable, dans la continuité de ce que nous avons fait depuis plusieurs mandats. Et nous allons, dans tous les quartiers, présenter ce programme. C'est 30 pages de magazine, donc avec des propositions qui sont détaillées. Il est détaillé quartier par quartier, thématique par thématique, parce que nous voulons dire aux Havrais ce que nous allons faire dans les 6 prochaines années. Je le dis parce que je vois pas tous les autres candidats se fixer la même exigence, le même sérieux, et souvent on ne sait pas véritablement ce qu'ils veulent faire pour le Havre et pour les Havrais.
Eh bien, on va essayer de le voir avec Charlotte Boulogne, donc pour LFI. Vous mettez-vous en avant notamment le référendum d'initiative populaire ?
Alors oui, nous, c'est important pour nous de recréer en fait du lien et de la confiance entre les élus et les citoyennes et les citoyens. Et pas une fois que tous les 6 ans, on ne peut pas décider à la place, mais on décide avec. La politique, elle s'intéresse au quotidien de toutes et tous, alors les citoyennes et les citoyens doivent en reprendre le contrôle. Nous proposons le référendum d'initiative citoyenne qui a été rendu populaire notamment pendant pendant les Gilets jaunes. La révocation des élus, pour nous, c'est une chose très très importante. Et on veut des assemblées de quartier qui soient décisionnaires et pas juste consultatives. Ici, on respecte les choix des citoyennes et des citoyens. Et il y a aussi une notion importante qui est la transparence. Avec, par exemple, nous, on propose la captation des conseils municipaux. Et la France Insoumise au Havre se veut signataire de la charte Anticor qui propose notamment l'absence de casier judiciaire pour les élus. C'est important pour nous aussi de lutter contre la corruption et le clientélisme. Et je pourrais conclure en disant que tous les Havrais et Havrais doivent reprendre le contrôle sur leur ville et aussi sur leur vie. Ils doivent décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent, en fait.
Du côté de l'UDR et du RN, Olivier Queval, comment être à l'écoute du citoyen ?
Alors, premièrement, je voudrais vous remercier de nous avoir invités. Je salue tous les participants. Le Havre, la gestion d'une ville, ça ne se décide pas seul dans un bureau. Nous avons l'intention de faire participer toutes les Havraises et les Havrais aux décisions prises par le conseil municipal. Première chose, nous avons construit un programme avec les Havraises et les Havrais. On les a rencontrés sur les marchés, dans les rues, dans les réunions, et on leur a demandé ce qu'ils souhaitaient. On les a laissés parler, on les a écoutés et on a mis en place ce projet et ce programme pour faciliter et embellir la vie des Havraises et des Havrais. Ce projet est le meilleur et nous allons gagner. Les Havrais nous le demandent, on va faire du changement au niveau de la ville. Trois thèmes reviennent souvent, la propreté de la ville du Havre, la sécurité au niveau de la ville du Havre, et aussi la différence entre certains quartiers, mais je pense qu'on va en parler plus tard. Le grand sujet aussi qui revient, c'est la santé avec l'absence de médecins.
Et ça, on en parlera à la fin de cette émission. Laurent Logioux, donc pour la liste de Jean-Paul Lecoq, vous voulez notamment revoir, enfin, entre autres, revoir les fabriques pour des maisons, des habitants. Expliquez-nous.
Oui, d'abord, il faut quand même se dire une chose. La méthode de gouvernance qui a été utilisée depuis 25 ans au Havre, c'est décision en haut et en bas. De temps en temps, on réunit les habitants. Donc, il faut changer cette méthode de gouvernance. On n'est pas les seuls à le dire, d'ailleurs, autour de cette table. Et donc, parce que ça peut pas continuer à fonctionner comme ça. Les gens, ils vont plus voter. Ils vont plus voter pourquoi ? Parce qu'ils se sentent abandonnés, mais aussi parce qu'ils se sentent pas consultés. Et donc, il faut mettre en place, en effet, dans tous les quartiers de la ville, et donc transformer les fabriques tout en gardant leur activité en maison des habitants, et mettre en place des conseils des habitants dans tous les quartiers. Et ce sera aux habitants eux-mêmes de déterminer la façon dont ils veulent fonctionner, et aussi d'avoir, pourquoi pas, des budgets participatifs à l'intérieur de ces conseils de quartier, pour que les habitants dans leur quartier puissent décider. Il faut associer les Havraises et les Havrais, c'est nouveau. Il faudra bien sûr aussi utiliser le référendum municipal, quand c'est possible, puisque la loi l'autorise. Il faudra mettre en place un conseil municipal des jeunes. Il faudra mettre en place des missions d'information et d'évaluation des politiques publiques de la municipalité ouvertes à l'opposition. Et puis, quelque chose d'important, les gens sont de plus en plus soumis au numérique et je pense qu'il faudra travailler sur le numérique dans les maisons des habitants parce qu'il y a beaucoup de gens qui y sont aujourd'hui, pas hostiles, mais en tout cas n'arrivent pas à faire tous les papiers et donc il faudra les aider là-dessus et je crois que c'est quelque chose d'important.
Alors, Marie Lecieux, vous êtes à la tête d'une liste citoyenne.
Et participative.
Donc j'imagine que c'est au cœur de votre...
c'est notre ADN. Nous voulons réenchanter la politique par le local, en s'opposant à l'élitisme et à l'hyper-professionnalisation du personnel politique. Nous souhaitons faire du Havre une commune participative où élus, agentes, agents, habitantes, habitants travaillent concrètement ensemble. Notre principe de base est le travail associé. Toute décision importante réunit quatre légitimités. Les élus pour la légitimité élective, les agentes et les agents pour leur connaissance technique du terrain, les habitantes et les habitants en tant qu'experts d'usage de leur propre vie, et la société civile, associations, syndicats, collectifs, acteurs du tissu économique. Chacun apporte ce que l'autre n'a pas. Concrètement, nous allons remplacer les commissions municipales fermées, où seuls les élus décident entre eux, par des groupes de travail ouverts. Chaque groupe de travail est constitué d'un ou plusieurs élus, des agentes et des agents de la commune, des habitantes et des habitants volontaires et des habitantes et des habitants tirés au sort. Chaque groupe aura un budget réel et un vrai pouvoir de décision. Ce ne sont pas des réunions où on vous écoute poliment pour faire ensuite ce qu'on avait décidé. Ce sont des espaces où les décisions se fabriquent ensemble. Pour toucher ceux qu'on n'entend jamais, les actifs, les jeunes, les familles monoparentales, les personnes qui ne se sentent pas légitimes, nous ferons du porte-à-porte. Nous irons chercher les habitantes et les habitants tirés au sort directement chez eux pour leur dire « Venez, votre avis compte ». Nos agentes et nos agents municipaux ne sont plus de simples exécutants. Ils co-construiront les politiques avec les élus et avec vous. Ce travail à trois change la qualité des décisions. Elles intégreront la vision politique des élus, la réalité du terrain, des agentes et des agents, et le vécu des habitantes et des habitants.
Alors, Marie-Luthieu, on va marquer une petite pause. La publicité doit passer. On se retrouve pour la suite de notre débat juste
avec
après.
Plaisir.
Et de retour dans ce débat du premier tour des élections municipales au Havre, puisque, je le rappelle, nous votons bien sûr dimanche pour ces municipales. Les sept listes sont présentes autour de cette table, donc pour évoquer cette campagne. On parlait il y a un instant, eh bien, de la démocratie participative. La scène Belgacem, vous représentez Sophie Zarifian. Là aussi, c'était une liste qu'on appelle une liste citoyenne. C'est une démarche assez... Alors, je vais pas dire que c'est nouveau, mais c'est une démarche... On a deux listes citoyennes cette année dans cette campagne.
Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais d'abord vous remercier, Tendance Ouest, à nous donner la parole et à permettre ce débat. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de citoyens ont le sentiment que leur parole ne compte pas assez. Notre objectif à nous, c'est de redonner une vraie place aux habitants dans les décisions de la ville. C'est effectivement aujourd'hui, il y a un seul conseil de quartier par an, souvent en fin d'année, tard le soir. Nous proposons un conseil de quartier tous les trimestres pour pouvoir discuter régulièrement des sujets d'actualité, mais aussi ces conseils ne doivent pas être simplement consultatifs, c'est pas juste pour information, ils auront un budget d'investissement propre, adapté au nombre d'habitants du quartier, la possibilité d'améliorer les projets municipaux et la capacité de saisir le conseil municipal lorsqu'un sujet important concerne les habitants. Nous mettrons également en place des conseils citoyens tirés au sort composés d'habitants. Sa mission sera de suivre les engagements de la majorité municipale et de vérifier que les promesses faites aux habitants sont réellement tenues. Effectivement aussi, plus de transparence. La transparence doit devenir une règle. Nous proposons la diffusion en direct des conseils municipaux et un temps de parole des citoyens en début de séance. Nous créons un droit d'interpellation citoyenne concrète lorsqu'un nombre d'habitants pose une question et soulève un vrai problème. La mairie devra apporter une réponse publique. L'objectif est simple, c'est de faire vivre une démocratie pendant tout le mandat, pas seulement les jours du vote. Parce que là, aujourd'hui, effectivement, on voit toutes les équipes présentes sur le terrain. Quand on échange avec les Havrais et les Havraises, ils aimeraient que la présence de l'équipe actuelle municipale soit présente comme ça tout au long de l'année. Donc le groupe citoyen aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et on est un mouvement citoyen pour représenter les Havraises et les Havrais.
Un dernier mot de la liste Lutte Ouvrière, Jean-Paul Massé, donc sur cette démocratie participative.
Oui, alors ce qui est frappant, c'est qu'on nous parle de donner la parole à la population, de démocratie participative, que pendant les campagnes électorales. Nous sommes pour... que ce soit les travailleurs qui décident de tout dans la société, de tout ce qui se fait, de tout ce qui se projette. Ce sont les travailleurs qui produisent tout, mais qui ne décident de rien, non seulement au Havre, mais dans toute la société. Et il est plus urgent, de plus en plus urgent que ça finisse, parce que toutes les décisions, que ce soit au niveau d'une grande agglomération ou que ce soit au niveau du pays ou même à l'international, elles sont prises en fait par des politiciens professionnels qui agissent, prennent les décisions en fonction des intérêts des grands groupes financiers et capitalistes, y compris les décisions graves. Et ça, je ne peux pas ne pas en parler aujourd'hui, parce que c'est de ça dont on discute ces derniers jours, tous les, tout, la quasi-totalité des Havrais avec qui on discute, c'est quand même l'engrenage qui nous place devant une troisième guerre mondiale avec ce qui se passe. Bon, à qui Macron a-t-il demandé l'avis? Est-ce qu'il a demandé l'avis à la population pour envoyer la marine?
Monsieur Massé, on va dire que là, ça dépasse municipales.
Les municipales, je m'excuse. Quand en fin novembre dernier, le chef d'état-major des armées a dit qu'il fallait que les maires fassent passer à leur population qu'il faudra aller faire sacrifier leurs enfants et à faire des sacrifices économiques, il l'a fait devant l'Assemblée des maires de France. Eh bien, nous, en tant que conseillers municipaux, on ne sera pas de ceux qui défendront cette politique.
Alors, on va passer à notre autre thème. On va essayer de recentrer sur les municipales et sur la particularité de la ville du Havre avec sa ville haute et sa ville basse, avec les habitants de la ville haute qui parfois peuvent se sentir un peu délaissés. Alors, y a-t-il deux villes au Havre? Quels sont les projets des candidats? On revient vers vous, Jean-Baptiste Gastine. D'abord, est-ce qu'il y a vraiment cette différence ville haute, ville basse?
Alors, le Havre, c'est une géographie et avec un relief. Et donc, cette géographie dicte, en effet, la présence d'une ville haute et d'une ville basse. Mais c'est aussi une histoire. Et de ce point de vue, le Havre, c'est une petite vingtaine de quartiers, avec chacun une identité propre, avec un esprit village dans beaucoup, avec une place dans beaucoup de ces quartiers. Nous avons commencé à en rénover et nous allons continuer à rénover des places parce que c'est des lieux importants de sociabilité, de vie du quartier, d'animation du quartier, de services publics aussi. Nous allons poursuivre la transformation de tous les quartiers du Havre. Nous avons toujours considéré que tous les quartiers comptaient à égalité, que tous les Havrais et que toutes les Havraises comptaient à égalité. Et nous traitons les quartiers les uns après les autres par l'urgence qui est nécessitée par la situation, parce que parfois, il faut le reconnaître, elle est dégradée. Et donc on est intervenu, je donne des exemples, dans le quartier d'Anton, on est plutôt à la fin, ça a fait l'objet d'une concertation qui a rassemblé plus de 1000 personnes, et on a construit le quartier d'Anton avec les habitants. Après, il y a eu des transformations à Aplemont, et là c'était mal parti. L'entreprise de logement social, très présente à Aplemont, n'avait pas suffisamment concerté. C'est nous qui avons dit stop à ce projet pour qu'il soit repris avec les habitants du quartier, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait exactement la même chose à Notre-Dame et Saint-François, et les travaux sont en cours, à Thiercoty, et là encore avec beaucoup d'habitants. Place de la Mare aux Clercs, on a commencé les travaux, on va les poursuivre. Sur le site des écuries Anquetin, sur le centre ancien Est, on va faire la même chose qu'à Danton, avec la même concertation qui a été engagée, et avec beaucoup de participants. Et on va continuer à transformer les magasins généraux, la Vallée Béreux, en utilisant cette méthode de la concertation parce qu'on pense qu'elle est bonne. On ne le fait pas que pour transformer des quartiers et le cadre de vie des habitants, mais aussi pour les questions de mobilité. Sur le tramway, l'extension du réseau de tramway, c'est près de 2000 personnes et on a modifié le tracé. Donc j'entends certains d'entre vous qui disent « mais vous n'écoutez pas, vous faites de la fausse ». On a modifié le tracé à la suite de la concertation s'agissant de la troisième ligne de tramway. La rue d'Étretat, sur la rue d'Étretat, c'était pas facile. Là aussi, il y a eu une concertation, on a fait une expérimentation, les gens nous ont dit ce qu'ils souhaitaient, et on a transformé
la
rue d'Étretat et le quartier Saint-Vincent.
On va voir ce que propose monsieur Bekassem, vous voulez prendre la parole.
J'entendais monsieur Gastine parler des barrières sociaux, on a énormément de problématiques avec les logements, et quand ça arrange la municipalité, dire la mairie ne dépend pas des barrières sociaux, là vous savez mettre la pression quand ça vous arrange, donc on a énormément de problématiques liées au logement. Donc on aimerait bien aussi également que vous preniez des positions et des positions fermes auprès des bailleurs sur des appartements et sur les états de certains appartements. C'est des demandes qu'on a régulièrement et énormément sur le terrain. J'ai encore échangé il y a moins de 24 heures avec une femme qui s'appelle Sandra qui nous a interpellés sur les réseaux sociaux pour nous montrer dans les états catastrophiques que son logement est. Donc on compte sur vous depuis longtemps pour agir et vous agissez quand ça vous arrange.
Attendez, parce que sinon on tend parole, on n'y sera pas. Sur la ville haute, sur la ville basse, monsieur Belkacem.
Sur la ville haute, sur la ville basse, beaucoup d'habitants ont le sentiment qu'il existe deux villes. D'un côté, on a le Havre avec une belle carte postale, le centre-ville, le centre reconstruit, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, des aménagements visibles, une image valorisée jusqu'à les métros dans Paris. Et d'un autre côté, on a des infrastructures parfois dégradées. Dans certains quartiers, on constate des infrastructures municipales vieillissant, des équipements publics qui manquent d'entretien, un sentiment d'abandon chez certains habitants. On le voit notamment dans des écoles maternelles élémentaires où les bâtiments sont anciens, parfois avec des infiltrations d'eau, des problèmes de chauffage. Moi, j'ai mes enfants qui sont scolarisés à l'école Pauline Cargomar. Au mois de janvier, les enfants n'ont pas pu aller à l'école parce qu'il n'y avait pas de chauffage dans les classes. Il faisait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Les équipements sportifs, on le constate aussi dans plusieurs équipements sportifs qui sont pourtant essentiels pour la jeunesse et la vie associative. J'ai des exemples qui sont factuels. Le gymnase du Bois de Bléville, c'est un gymnase qui est utilisé par plusieurs associations sportives, mais son état est très préoccupant.
On va le rénover, c'est dans notre programme.
Oui, mais il a été plus d'un mois. Juste pour terminer, s'il vous plaît. Il a été fermé plus d'un mois et demi pour des raisons techniques, des infiltrations d'eau, des problèmes d'isolation.
Il va falloir qu'on marque une nouvelle petite pause et on se retrouve juste après pour continuer nos discussions. À tout de suite. Et de retour pour la troisième et dernière partie de notre débat du premier tour des élections municipales du Havre, puisque nous votons ce dimanche. Les sept listes, qui se présentent dans la cité Océane sont représentées autour de ce plateau. Nous évoquions la particularité au Havre de cette ville haute et de cette ville basse. On va continuer notre tour de plateau en commençant par vous, Charlotte Boulogne, pour LFI. Est-ce qu'il y a des différences? Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à cela?
Alors, moi, je dirais qu'il y a plus qu'une ville haute et qu'une ville basse. Il y a une ville où on vit bien et il y a une ville où on vit un peu moins bien, puisque les rapports de l'INSEE montrent qu'il y a eu de la ségrégation qui a été faite depuis des années. On est passé d'une des villes les moins ségrégées à une ville les plus ségrégées. Le taux de pauvreté dans certains quartiers a atteint plus de 40%, avec un taux moyen à 22%, alors qu'à l'échelle nationale, on est plutôt à 14%. Nous, on fait des constats de terrain, c'est-à-dire qu'on se rend dans tous les quartiers du Havre, on néglige aucun quartier, on fait du porte-à-porte, et on voit des quartiers comme par exemple à la Marouge, où l'état de délabrement des logements sociaux est avancé. On rappelle que dans ce quartier-là, souvent, c'est des logements qui sont gérés par Alcéane, dont le président est Monsieur Saint-Martin, qui est élu de la majorité aujourd'hui. Alors nous, on pense qu'il faut un investissement sur les logements sociaux, parce qu'on ne peut pas se passer de ça. Et aujourd'hui, les investissements qu'on ne fait pas, c'est des investissements qui coûteront 5 à 10 fois plus cher dans les prochaines années. On propose aussi un meilleur accès aux transports. Aujourd'hui, on a le tram en ville haute, mais par exemple, au Bois de Bléville, ils n'ont plus qu'un bus. Ça crée des inégalités d'accès. Et aussi, remettre des services publics en ville haute pour que chacune et chacun ait accès à un service public de proximité et enfin retrouver un petit peu de lien entre toute la ville, un peu plus de cohérence. Parce qu'aujourd'hui, les ambitions présidentielles d'Edouard Philippe sont là, on fait du Havre une vitrine pour lui, pour ses ambitions, pour les croisiéristes, mais les Havrais souffrent réellement. Donc il faut un petit peu plus de justice sociale pour tout le monde.
Olivier Queval pour l'UDR RN, donc sur l'urbanisme en règle générale, du coup sur cette ville haute et sur cette ville basse.
Alors, moi, je trouve complètement méprisant de quartier haut ou ville basse. On a l'impression que c'est le centre-ville, c'est les riches, et que la ville haute, c'est les pauvres. Nous, on n'a pas du tout l'intention de continuer dans cette situation. On a sorti un tract sur les logements avec photos, pour prouver qu'il y a des logements sociaux qui sont complètement abandonnés. Et les Havraises et les Havrais nous l'ont dit. Nous disent, oui, on appelle les bailleurs sociaux. D'abord, pour les avoir, c'est compliqué. Ensuite, quelquefois, ils se déplacent. Ils nous disent, oui, on constate, on va faire remonter, mais ça redescend jamais. Et parfois, c'est même les habitants qui font les travaux eux-mêmes, parce qu'ils en ont marre de vivre dans l'insalubrité. Le problème se passe, c'est que les gens se sentent abandonnés, et comme par hasard, parce que ce sont les élections municipales, le maire actuel et sa liste ont des idées et vont mettre en place des nouveaux projets. Pendant 6 ans, les quartiers hauts, ils existent aussi, et on les a pas, on s'en est pas occupé. Donc nous n'avons pas l'intention de continuer cette politique. Nous avons l'intention de faire participer tous les Havrais et de les écouter et de les aider et pas les laisser dans cette situation.
Alors sur cette même thématique, on tourne sur ce plateau avec vous, Laurent Logioux, qui représente donc la liste de Jean-Paul Lecoq.
Oui, merci. Bah, écoutez, quand j'entends le représentant d'Edouard Philippe, je me demande si je vis dans la même ville en réalité. Parce que il n'y a pas une ville basse, une ville haute, il y a un centre-ville et puis il y a le reste. Et quand je vais au Chambaret,
est-ce qu'on peut éviter les caricatures, s'il vous plaît?
Quand on va... Non, c'est pas une caricature. Ben
c'est oublié, c'est oublié tout ce qui a été fait à Coquerieville, à la Mare Rouge, au Mont-Gaillard, à Ablemont.
Terminez, monsieur Lejoux.
Voilà, c'est tellement dans, la caricature.
Non,
et c'est ce que vous répétez depuis 30 ans. C'est ce que vous répétez depuis 30 ans, c'est ce que vous répétez. Déjà, du temps d'Antoine Ruffnag, vous répétez ça.
Laissez parler monsieur Lejoux qu'il explique.
Avec monsieur Gastine, c'est jamais possible. Il le fait exactement de la même façon, il dit parler de démocratie au conseil municipal. Moi, j'ai votre document là avec tous les petits points. En effet, vous allez vous occuper des quartiers sur lesquels vous n'êtes pas intervenu pratiquement pendant 25 ans. Moi, j'invite les gens à aller regarder votre carte, les petits points. Avant, c'était que le centre-ville. Là, maintenant, vous allez travailler ailleurs. Ça fait 25 ans que vous êtes là. Et donc, quand vous allez au Chambaret, moi je vous le dis, allez au Chambaret et regardez ce qui s'est passé. Rien. Oui, un stade à côté, c'est... la misère. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être dans une municipalité et laisser des quartiers aussi à l'abandon. Donc, les conseils des habitants, la culture pour tous et partout, parce qu'on n'a pas parlé de culture, mais c'est important aussi. Et dans ces quartiers-là, il n'y a rien. La présence de la police municipale dans tous les quartiers, pas seulement là où elle est aujourd'hui. Et puis, redonner de l'espoir aux Havrais qui habitent dans ces quartiers, à travers notamment les logements qui sont un peu délabrés.
Marie Lecieux, sur cette thématique.
Alors, sur cette thématique, oui, cette falaise coupe notre ville en deux. Ce n'est pas qu'une question de géographie, c'est une frontière sociale. Mais attention, en ville basse aussi, il existe des quartiers populaires qui vivent l'exclusion. Car le vrai sujet, c'est celui de la légitimité. Qui se sent chez soi dans l'ensemble de cette ville ? Des travaux en sociologie urbaine montrent que la stigmatisation des quartiers populaires produit quelque chose de dévastateur. Des habitantes et des habitants qui s'auto-restreignent, qui évitent certains espaces du centre, certains équipements culturels, certains lieux. Parce qu'ils ont intériorisé l'idée que ces espaces ne sont pas pour eux. Ce n'est pas de la fatalité, c'est le résultat de politiques, de représentations, de discrimination accumulée. Il existe un droit à la ville, le droit de tous à habiter, à utiliser, à façonner l'espace urbain. Au Havre, ce droit est à géométrie variable. Notre programme y répond. Transport gratuit, pistes cyclables, budget participatif, ateliers urbains de proximité, médiation culturelle, équipements sportifs accessibles à toutes et à tous, y compris aux femmes, aux enfants et aux personnes à mobilité réduite. Notre conviction est que chaque habitant et chaque habitante est légitime dans chaque quartier de sa propre ville. Notre ambition, c'est une ville réunifiée où la topographie, le code postal ou le regard des autres ne deviennent plus le destin d'une personne.
Alors, on va terminer avec cette thématique avec vous, Jean-Paul Massé, pour Lutte ouvrière.
Oui, alors c'est sûr qu'avec la volonté clairement affichée et les réalisations qui vont avec de faire du Havre une métropole touristique à grand coup de budget, bah, il est sûr que les habitants du bois de Bléville, de Cocry, sont en droit de demander des comptes et il faut qu'ils le fassent. Cela dit, en ville basse, il y a bien des quartiers qui sont eux aussi délaissés avec des équipements dégradés, etc. Parce que c'est la véritable fracture, elle n'est pas entre ville haute et ville basse en général. La fracture, elle est sociale. C'est une fracture de classe. Les couches populaires s'appauvrissent de plus en plus, tombent de plus en plus dans une misère matérielle et morale. Bon, alors que à une autre échelle, à l'échelle de la société. Et ça, c'est ce qui est vécu dans toute la société. Et alors qu'en haut de la société, bah, les millions, les milliards coulent à flot. Donc le Havre, comme la quasi-totalité des agglomérations des villes, est dans cette situation. C'est pour ça que si nous nous présentons, bah, c'est pour que justement le monde du travail, les travailleurs, qu'ils soient actifs, retraités ou en recherche d'emploi, relèvent la tête, s'organisent pour non seulement pour se défendre leurs conditions de vie, leur salaire, leurs emplois, leur pension, parce que tout vient de là. Le fric, l'État se comporte comme une pompe à fric depuis des années au profit des très grosses entreprises. Et on le sait bien, ça se paye, y compris au niveau de la baisse des dotations d'État aux collectivités locales.
Alors, Monsieur Massier, on va essayer d'aborder le dernier thème. Et là, s'il nous reste très très peu de temps, on va essayer de faire au plus vite. Le dernier thème, c'était normalement la santé, avec notamment le manque de médecins sur la ville du Havre. On va commencer par ceux qui ont un peu de retard sur leur temps de parole. Laurent Logioux, pour la liste de Jean-Paul Lecoq. Vous mettez notamment en avant un centre de santé municipal avec des médecins salariés.
Bah vous savez, de toute façon, mais tout le monde le sait aussi d'ailleurs, parce que tout le monde met ça en avant, 25 000 à vrai, 100 médecins, voilà, c'est un constat. On a eu un Premier ministre, on a eu une ministre de la Santé, mais c'est une réalité. Et donc, on veut avoir une politique volontariste par rapport à ça, et on veut mettre en place, en effet, des centres municipaux de santé avec des médecins salariés. Alors, on nous dit, ça marche pas. C'est faux. Il y a plus d'une centaine de ces centres qui marchent en France. Il y en a à Dieppe, il y a déjà 10 médecins. Et c'est généralement équilibré au bout de la deuxième année. Et donc, il faut avoir une politique, comment dire, volontariste là-dessus, et pas un positionnement idéologique, dogmatique, en disant non, ça peut pas fonctionner. Aujourd'hui, tout ce qui a été fait avant n'a pas fonctionné, et donc il faut le faire. Alors, il faut aussi permettre... à gérer les problèmes d'environnement, parce que la santé et l'environnement ici au Havre, c'est lié. Et donc, il faut un observatoire santé-environnement pour regarder les pathologies qui existent aujourd'hui, qui sont plus importantes au Havre, et savoir à quoi c'est dû. Et puis, il faut jouer sur la baisse de la pollution. Et donc, une de nos propositions aussi, c'est la gratuité progressive des transports, parce que c'est aussi une mesure de pouvoir d'achat, hein, la gratuité pour les scolaires et le mercredi et le samedi, mais c'est aussi l'action sur l'environnement. Vous savez, dans des villes comme le Rouen, Montpellier ou Dunkerque, c'est 30% de pollution en moins depuis qu'ils sont passés à la gratuité. Alors, donc, je crois que c'est important de le faire.
On va laisser la parole à Charlotte Boulogne. Vous pouvez un petit peu vous rejoindre là-dessus, hein, avec Monsieur Logioux.
Mais nous, on se rejoint, c'est vrai, là-dessus sur la création de centres de santé municipaux, mais nous, on veut aller un petit peu plus loin, pas que des médecins, aussi des équipes pluridisciplinaires pour faire de la prévention, l'éducation, de la rééducation. On veut aussi créer une mutuelle de santé municipale pour du coup réduire l'impact budgétaire de la santé sur les Havraises et les Havrais. Il faut une vraie aussi politique de prévention sur l'alimentation, sur les conduites à risque, sur les dépistages, et aussi agir sur la pollution avec les transports en commun gratuits, dire stop aux croisières ultra polluantes, parce qu'aujourd'hui ça rapporte peu, par contre ça coûte en santé. Hein, au Havre, l'espérance de vie elle est un peu moindre que celle en France, donc ça c'est important de le souligner aussi. Mais la santé c'est aussi les EHPAD, et l'état des EHPAD actuels et les escales notamment, les travailleurs, les travailleuses, les personnes accueillies sont un petit peu négligées, un petit peu en souffrance, hein, je pense, c'est aussi important de le rappeler, donc il faut aussi agir sur ce sujet. En tout cas, il faut avoir une politique globale de santé, travailler avec tous les acteurs de santé, l'hôpital public est aussi en souffrance dû au budget de la sécurité sociale qui ont été votés, je vous le rappelle, par Horizon, Place Publique ou le Parti Socialiste, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et il y a aussi la santé mentale au Havre qui est un grand sujet, il faut un cadre de vie où les Havraises et les Havrais se sentent bien, où il y a de l'amélioration pour tout le monde et qu'on considère tout le monde, et encore une fois, où on néglige personne.
Pardon, j'ai une question importante à poser. J'entends Mme Boulogne qui dit je rejoins les positions de Laurent Logioux. Moi, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire hier qu'il souhaitait qu'un accord programmatique soit possible au Havre. Et donc, j'aimerais bien savoir si Laurent Logioux et Mme Boulogne, dont les positions se rejoignent apparemment sur beaucoup de sujets, préparent un accord programmatique au Havre.
S'ils veulent vous répondre.
Eh ben, nous, on prépare ce qui est nécessaire, en tout cas, ce qui est le mieux pour les Havraises et les Havrais. Donc, ce qui est le mieux pour les Havraises et pour les Havrais, c'est du changement. Donc, bien sûr qu'on prépare, on n'est pas en discussion, on verra les résultats du premier tour qui nous permettront d'avoir. Mais en tout cas, on est en très bon terme avec l'équipe de Monsieur Lecoq, qui est représentée par Monsieur Logiot aujourd'hui.
J'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit.
Alors, on poursuit avec la santé. Olivier Queval pour l'UDR RN.
Oui, alors nous, notre projet, c'est de transformer l'hôpital Jacques Monod en CHU. Ça s'est déjà fait en France. Bon, on nous dit que c'est pas possible, mais si, ça s'est fait à Orléans. Et à l'époque, la deuxième colistière de M. le maire sortant, qui était en l'occurrence ministre de la Santé, avait approuvé ce projet, disant que c'était très bien et que ça favorisait la santé sur Orléans. Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas fait la même chose au Havre, puisqu'elle a été quand même ministre de la Santé. C'est vrai qu'elle avait peut-être d'autres soucis vis-à-vis de certains cadeaux au tribunal, mais bon, on passe sur ce sujet et on s'aperçoit que les Havrais et les Havraises, effectivement, manquent de médecins. Et le fait de transformer un hôpital en CHU amène aussi des étudiants en médecine, favorise aussi l'implantation, parce qu'il faut aussi s'occuper de ne pas les laisser dans la nature pour qu'elles repartent après dans les différentes villes, mais de les accueillir dans de bonnes conditions. Donc notre but, c'est d'aider les Havraises et les Havrais en leur apportant des conditions de santé les meilleures.
Je signale que la situation d'Orléans n'est pas la même. Dans le département d'Orléans, dans le département du Loiret, il y avait zéro CHU. Nous, on est en Seine-Maritime, et il y a un CHU à Rouen, à moins d'une heure d'ici, avec lequel nous travaillons depuis 10 ans pour apporter des solutions, pour essayer d'apporter des solutions aux problèmes d'accès aux soins. Et nous travaillons bien. Chercher à créer un CHU au Havre, c'est ouvrir une guerre avec le CHU de Rouen, et risquer de mettre à plat tout ce que nous avons fait depuis 10 ans, qui doit être poursuivi, sans être sûr de gagner la bataille au bout du compte.
Marie Lecieux, sur ce sujet de la santé.
Merci. On parle souvent de santé comme si elle se résumait à un médecin ou à son absence. Ce que nous portons, c'est une vision globale de la santé urbaine. La santé se fabrique dans chaque décision d'aménagement, dans chaque politique publique, dans chaque quartier. Et ce programme, nous ne l'avons pas écrit seul dans un bureau. Voilà ce qui nous distingue. Nous ne descendons pas avec des solutions toutes faites. C'est votre parole mise en acte. Alors oui, nous créerons des centres de santé municipaux et nous irons plus loin. Nous voulons soutenir les jeunes Havrais issus des milieux populaires qui souhaitent faire des études de médecine. Parce que former localement, c'est soigner localement. L'alimentation, c'est aussi la santé et c'est une urgence sociale. Nous lancerons l'ordonnance verte. Chaque femme enceinte, chaque enfant jusqu'à ses 2 ans, recevra un panier hebdomadaire de fruits et légumes bio, locaux et de saison. Parce que les premières années de vie sont déterminantes et que les perturbateurs endocriniens ne devraient pas être une fatalité. Mais nous voulons aller encore plus loin avec l'expérimentation d'une sécurité sociale de l'alimentation. Un droit universel à une alimentation saine, financée collectivement, gérée démocratiquement, comme la Sécu l'a fait pour les soins. Ce n'est pas une utopie, c'est une construction politique que des territoires pionniers expérimentent déjà. Enfin, on ne peut pas préserver la santé des habitants sans préserver celle de leur environnement. Nous portons la personnification juridique de l'air et de l'eau. C'est obliger chaque décision municipale à répondre à une question simple. Est-ce que cela protège ou abîme l'air et l'eau? C'est inscrire la santé environnementale au cœur de la gouvernance. Parce qu'une ville en bonne santé, c'est une ville qui écoute ses habitants et qui protège ce qui les fait vivre.
Alors Marie-Lucieux, merci. Quelques mots aussi sur la santé de la Seine-Belgacem pour Sophie Zarifian,
oui,
en
merci.
Faisant assez court puisque vous aviez un peu d'avance.
Merci, la santé, effectivement, c'est une priorité du quotidien. Aujourd'hui, pour beaucoup d'habitants, trouver un médecin devient difficile. Plus de 25 000 Havrais et Havraises n'ont pas de médecin. Nous proposons donc de créer un centre de santé municipal avec des médecins salariés avec une équipe composée de médecins, infirmières et spécialistes. L'objectif est simple, faciliter l'accès aux soins pour tous, sans dépassement d'honoraires. Des antennes de proximité seront également développées dans les quartiers, on imagine dans les mairies annexes, dans les PMI. Mais on voulait avoir aussi une attention particulière pour les aidants, parce que les aidants, on n'en parle pas assez. Pourtant, ce sont des femmes et des hommes qui donnent énormément au quotidien. Beaucoup consacrent leur vie et accompagnent un proche en situation d'handicap. Certains vont même jusqu'à quitter leur emploi et s'occuper d'un membre de leur famille à 100%. On a eu la chance d'être invité par récemment l'association Une Étoile Filante, où je veux saluer et féliciter le travail que Mansour Bouquet-Rouge et toute son équipe font par rapport à leur engagement, leur soutien et sur le terrain. Une question revient souvent des aidants, que va devenir nos enfants quand ils seront adultes? Que se passera-t-il le jour où nous ne serons plus là? C'est une inquiétude très très forte pour de nombreuses familles. La municipalité, effectivement, n'a pas forcément les compétences dans ce domaine, car certaines décisions dépendent de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, mais la mairie, avec ses élus, avec son maire, porte la voix quand même des familles, travailler avec les associations et faire avancer les solutions. Donc,
on va laisser, parce que le temps passe, un dernier mot. C'est dommage. Un dernier mot à Jean-Paul Massé sur ce domaine de la santé pour lutte ouvrière.
Donc aujourd'hui, 87% du territoire national est classé en situation de fragilité médicale. Et au Havre, on est en plein dedans, évidemment. Je rajouterai aussi que sur 3 660 € de dépenses de santé par habitant en 2023, l'État n'en finance plus que 23. Le reste étant, enfin le gros étant payé par les cotisations de sécurité sociale, mais également en reste à charge pour les assurés et pour les complémentaires santé. Par contre, bah là aussi, l'État trouve des milliards et de plus en plus pour augmenter le budget des armées et pour continuer à subventionner à perte les plus grosses entreprises du pays. Alors, je pourrais rajouter également que l'état de santé d'une population, c'est aussi les conditions de travail au quotidien. Et quand on voit l'exemple de salariés pas loin d'ici, à Renault-Sandouville, cassés par le boulot au bout de quelques années de chaîne seulement, bah oui, là aussi, il faut sur le sujet de la santé, il faut vraiment que les travailleurs, par leur mobilisation, eh bien, change l'ordre des choses.
Jean-Paul Massé, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus pour ce débat. Bonne journée à vous.